RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
C'était il y a 10 ans, le 27 octobre 2005, deux adolescents meurent électrocutés à Clichy-sous-Bois, près de Paris, et cela alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. La mort de Ziad Benna et de Bouna Traoré provoque alors des émeutes sans précédent dans les quartiers populaires français durant 21 nuits. 10 ans plus tard, les protagonistes de ces événements reviennent en grand reportage sur ces 3 semaines de révolte, d'incendies et d'affrontements, mais aussi sur l'empreinte qu'elles ont laissée dans ces quartiers et dans leur vie. Banlieue 2005, retour à Clichy-sous-Bois, un grand reportage de Raphaël Rennes.
J'ai croisé Ziad ce jour-là en lui disant qu'est-ce que tu fais. Et il m'a dit j'attends les autres, on va bouger à Livry pour jouer au foot. Il m'avait dit ça. Et j'ai dit bah ok, bah moi je vais chez mon cousin, je reviens tout à l'heure. Et à partir de là, plus rien.
Clichy-sous-Bois a donc été le théâtre d'émeutes cette nuit après la mort accidentelle de deux jeunes électrocutés par un transformateur EDF dans des circonstances qui restent encore confuses.
Je veux faire les manifestations qui servent à rien non plus. Ça choque l'État au moins, ça va vraiment l'État au moins.
Ils s'appelaient Bouna Traoré et Ziad Benna. Ils avaient 15 et 17 ans. Ils sont morts un après-midi d'octobre 2005, électrocutés dans un transformateur haute tension de Clichy-sous-Bois, où ils s'étaient réfugiés pour échapper à un contrôle de police. Un troisième adolescent, Mouitine Altoun, grièvement blessé, s'en sortira vivant. Tous les trois vivaient au Chêne Pointu, l'une des cités les plus pauvres de Clichy-sous-Bois. Fariz Halili était leur voisin, leur copain.
Voilà, c'était notre petit terrain de jeu justement, hein. Mes amis, Ziad, Bouna et tout le reste de la bande. Donc on a ici un local donc, qui est actuellement fermé, qui ont soudé carrément, donc ils l'ont soudé. Donc à l'époque, on se réunissait ici, notamment en période d'hiver. On avait réussi justement à débrancher une des ampoules pour tirer des câbles électriques, pour alimenter ce local en question. Donc on jouait à la PlayStation à l'intérieur, on avait une télé qu'on avait récupérée. On avait un canapé aussi qu'on avait récupéré. En fait, on était un peu équipés et on passait des heures et des heures à l'intérieur justement pour faire passer le temps.
Comment t'apprends ce qui s'est passé ?
Par des textos, parce qu'on ne connaissait pas encore les réseaux sociaux, etc. On m'envoie des textos en me disant « Est-ce que ça va ?» Donc moi, je réagis « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on m'annonce 3 décès, donc Ziad, Bouna et Metin. Dans un premier temps, on me dit que Metin est mort. Donc là, je suis bouleversé. Moi, je me disais que c'était pas possible, parce que Ziad, j'étais avec lui... la matinée, enfin à 11h, je me rappelle, il était 11h avant de partir justement chez mon cousin. Et là, on me dit qu'ils sont morts. Je dis, mais non, c'est pas possible, c'est impossible. C'est vraiment impossible que ce soit vrai.
Le soir même, le quartier du Chêne Pointu s'embrase. La révolte vise les services de l'État, les pompiers, qui ont mis trop de temps pour intervenir, estiment les habitants de la cité. Mais surtout, c'est la police qui est visée. En octobre 2005, Christophe était affecté à Montreuil, dans le même département de Seine-Saint-Denis. Ce fonctionnaire de police se souvient précisément de cette première soirée d'émeute.
Prise de service à 19h, le commissaire adjoint à l'époque qui descend nous voir et qui nous dit « Préparez-vous à y aller, parce qu'il y a possibilité que ça bouge. » Et puis, vers 19h30, on commence à entendre qu'il y a énormément d'assemblements sur place, commence à y avoir des petits feux de détritus à droite à gauche. Et du coup, y a un rassemblement des unités disponibles au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers de Clichy, juste à l'entrée du Chêne Pointu. Et là commencent les premières faits de violences urbaines, à savoir des groupes ultramobiles dans la cité qui se forment, qui commencent à mettre le feu. Au début, c'est des feux de broussailles, des feux de poubelles, pour rapidement passer à des barricades, des feux de véhicules et du caillassage en masse.
À l'époque, Clichy-sous-Bois n'est pas doté d'un commissariat. Ce sont les policiers des villes voisines qui patrouillent quotidiennement dans la commune et qui procèdent à des contrôles d'identité systématiques, plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour. Des méthodes qui entretiennent les tensions, estime Christian Moana, sociologue au CNRS et spécialiste des questions de police et de sécurité publique.
À ce moment-là, on est dans une situation extrêmement tendue, due à plusieurs facteurs. La fin de la police de proximité, annoncée officieusement en octobre 2002, officiellement au début de l'année 2003, c'est le fameux épisode de Toulouse où Nicolas Sarkozy vient clairement expliquer aux policiers de Toulouse et à ceux de France que fini la police de proximité, fini les tentatives, certes timides, mais enfin réelles, de rapprochement avec la population et place à une police qui privilégie la répression et d'une manière générale ce qu'on peut appeler le containment, c'est-à-dire le maintien des jeunes de banlieue dans leur secteur et surtout de protéger entre guillemets le reste de la société de ce public considéré comme dangereux.
La mort de Zied Ebouna embrase la cité du Chêne Pointu. Puis pendant 21 jours et 21 nuits, de nombreuses autres banlieues populaires de région parisienne et de France.
À l'époque, il y a beaucoup de jeunes qui disent il faut qu'il y ait un flic qui meure, il faut qu'il y en ait un qui soit tué.
Ouais, bah en fait c'était le mot d'ordre, si vous voulez, c'était ce qui se disait, il fallait qu'il y en ait un qui meure. On en a deux qui sont morts, on en a un entre la vie et la mort, il en faut au moins un qui meure. Si on n'y va pas, on n'est pas vu comme un lâche, mais pour soi-même justement, pour avoir une certaine conscience et se dire que, entre guillemets, on venge la mort de nos deux copains, on est obligé de sortir, que ce soit pour jeter des caillasses ou juste pour regarder, on est obligé de sortir.
Qu'est-ce que tu dis à tes parents à l'époque? Qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce qu'eux te disent?
Bah déjà, ils ont peur. Ils paniquent parce qu'ils pensent que je vais justement aller venger mes copains, que je vais aller me foutre au feu, que je vais finir en prison, parce que je vais me faire attraper, parce que si je sors et que même si j'ai rien fait, ils vont m'attraper parce qu'ils attrapent en lot, etc. Donc moi, je suis obligé de leur mentir à mes parents en leur disant que je vais chez Zied pour tenir le coup avec sa famille, etc. Et donc voilà, je suis obligé de leur mentir et tout ça justement pour me retrouver dehors et pour entre guillemets venger mes copains.
Mais la colère des jeunes s'adresse aussi à l'homme qui occupe à l'époque le poste de premier flic de France, le ministre de l'Intérieur. Deux déclarations de Nicolas Sarkozy faites en 2005 vont marquer les esprits dans les quartiers populaires. La première, au mois de juin, alors que le futur président français se trouve à la Courneuve.
Le terme nettoyer au Perchet, c'est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela.
La seconde déclaration intervient quelques mois plus tard, la veille de la mort de Zied Ebouna.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Karcher, racaille, pour Christian Moana, les propos de Nicolas Sarkozy suffisent à expliquer l'embrasement des quartiers populaires.
On est dans la provocation, on est dans l'insulte. On voit bien que derrière, il y a des préoccupations électoralistes, la construction d'une image. On est clairement dans une logique de « je joue sur l'autoritarisme, sur la force, sur l'image de « je suis le premier flic de France », qui est quand même une posture sur laquelle il faudrait s'interroger, pas que pour Nicolas Sarkozy, mais pour d'autres. Au lieu d'être un gestionnaire, quelqu'un qui doit apaiser, chercher à solutionner les problèmes, non. Il est délibérément le chef de bande.
Et même chez les policiers, ces déclarations ne passent pas inaperçues.
Ça va pas faciliter les choses. Bon, après, le terme racaille, c'est une personne qui dit débarrassez-nous de sa racaille. Et du coup, M. Sarkozy reprend le terme. Après le coup du Karcher, ça a énormément fait parler à la Courneuve. Et encore aujourd'hui, pas pour les plus jeunes générations, mais des gens qui ont 25, 30 ans maintenant, qui avaient entre 15 et 20 ans à l'époque. Ça a énormément marqué ce terme-là de nettoyer au Karcher, parce que pour eux, qu'est-ce qu'on nettoie au Karcher? Vulgairement, de la merde. Donc ça a été compliqué à encaisser, mais même pas spécialement aussi pour les délinquants, pour les gens là-bas qui y habitaient, tout simplement.
En ce mois d'octobre 2005, une voix dissonante se fait entendre au sein du gouvernement de Dominique de Villepin, celle d'Azouz Begag, ministre délégué à l'égalité des chances.
Dès ce mot Karcher, dans la bouche d'un homme avec une telle responsabilité politique, j'avais dit que je m'opposais à la sémantique guerrière du ministre de l'Intérieur. Et là, je déclarais la guerre ouverte, moi, Azouz Begag, enfant des banlieues, tout seul, contre l'UMP, contre Nicolas Sarkozy et contre l'homme qui allait devenir le président de la République française.
Le 8 novembre, on compte déjà plus de 4800 véhicules incendiés, des dizaines de magasins, d'entrepôts, de concessions automobiles et d'autres lieux brûlés. Le Premier ministre décide de recourir à des mesures d'urgence. Dominique de Villepin l'annonce sur la chaîne de télévision TF1.
Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu, s'il l'estime utile, pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir. Et les préfets décideront, à l'intérieur de ces territoires, les quartiers les plus sensibles, où ils jugent que de telles mesures doivent être prises.
Deux jours plus tard, l'état d'urgence est officiellement décrété, pour la première fois en France depuis la guerre d'Algérie. Le 17 novembre, après une dernière nuit de violence, le calme revient finalement partout en France. Le bilan final fait état de près de 10 000 véhicules brûlés, 2921 interpellations et 56 policiers blessés.
Qu'est-ce qui vous calme à l'époque ? Qu'est-ce qui fait que ça va s'arrêter ?
Les médiateurs, surtout, ils ont vraiment fait un énorme boulot.
Qu'est-ce qu'ils vous disent à l'époque ?
De rentrer chez nous, d'arrêter ces conneries, que ça les fera pas revenir. Que c'est pas en faisant ça que justement on allait faire avancer les choses. Moi j'ai vraiment reçu un coup sur la tête le jour où j'ai appris le décès de mes copains. J'avais 16 ans et là je me suis vraiment posé les bonnes questions. Je me suis vraiment dit mais en fait on est vraiment mis à l'écart. Et là en fait y a tout qui revient en tête, tout ce que les médiateurs, tout ce que le maire de la ville dit. C'est vrai qu'on n'a pas de commissariat, c'est vrai qu'on n'a pas de piscine, c'est vrai qu'on n'a pas de gare. En fait on manquait de tout, mais on s'en plaignait pas parce que nos parents ne s'en plaignaient pas non plus. Parce que pour eux, c'était normal de vivre justement dans de telles conditions. Parce que nos parents sont arrivés justement de pays africains, entre autres, entre guillemets. Et pour eux, c'est une énorme chance de vivre justement sur en France. Donc forcément, pour le peu qu'on leur donne, ils ne voulaient pas s'en plaindre. Donc c'est pour ça justement que voilà. Donc nos parents s'en plaignaient pas, on s'en plaignait pas non plus. Pour nous, c'était tout à fait normal. On avait le droit à l'école et on avait le droit à plein de choses. On allait au foot. Donc forcément, on était les plus heureux du monde.
Aujourd'hui, Clichy-sous-Bois dispose d'un commissariat, d'une piscine municipale et le tramway va bientôt desservir la commune. Après les émeutes, l'un des collèges de la ville a été entièrement rasé et reconstruit à neuf. Plusieurs écoles ont été rénovées. Mais au milieu d'une ville qui change, le quartier du Chêne Pointu, lui, est resté le même.
C'est toujours la misère pour ceux qui poussent derrière, poussent au milieu d'un champ de béton.
Moi, personnellement, je vois aucun changement, mis à part peut-être la rénovation des ascenseurs. Aucun coup de peinture, rien du tout. Vous pouvez le voir, hein, vous savez, cet ag-là, moi, je l'ai voyé il y a 10 ans. Donc des locaux justement ouverts alors qu'ils devraient être fermés normalement pour des raisons de sécurité. Vous pouvez regarder l'état du parking aussi, regardez, c'est mal entretenu. Donc en disant ouais, Clichy-sous-Bois ça a changé, quand je rentre dans ce hall, je vois aucun changement. Donc je persiste à dire qu'ils sont morts pour rien, je pourrais pas revenir sur ça justement. Après, un mal pour un bien, c'est les insulter, parce que je vois pas de bien dans leur mort. Mais c'est ce qui a fait bouger les choses et ce qui a justement ramené une certaine stabilité à Clichy-sous-Bois. Il n'y a plus du tout la même colère parce que c'est la génération internet un peu. Ils pensent qu'à aller sur leur smartphone, discuter en réseaux sociaux, etc. et faire passer le temps comme ça. Il n'y a plus autant de haine qu'avant. La haine, on la sentait vraiment à l'époque et on sent qu'elle s'est vraiment, vraiment dissipée aujourd'hui. Bon, après, je vais être franc avec vous, il y a toujours autant de fumeurs à Clichy-sous-Bois, il y a toujours autant de drogue, il y a toujours autant de. À Clichy-sous-Bois, enfin, notamment aux chaînes pointues, les charges sont énormes. On a l'impression d'habiter à Neuilly-sur-Seine ou à Boulogne. Donc, forcément, à la fin du mois, il ne nous reste plus grand chose pour vivre. Donc forcément, on peut pas subvenir aux besoins des enfants qui ont besoin d'une nouvelle paire d'Air Max pour faire comme le copain. Ces enfants-là, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont un besoin d'appartenance, donc à un groupe. Donc forcément, un jeune qui a pas d'argent, qu'est-ce qu'il va faire ? La première chose qu'il va faire, c'est soit aller voler, parce qu'il a pas l'âge de travailler, ou soit dealer de la drogue. Et donc le malaise, il vient de là, en fait. Moi, je pense, des cités, je pense qu'il vient de là, le manque d'argent.
Pour Christophe, le policier, la situation de 2015 est pourtant plus inquiétante que celle d'il y a 10 ans.
Les tensions sont toujours là. Et je pense que si on vivait la même chose, on monterait d'un cran dans la violence. On aurait en face de nous des individus armés et ce coup-ci pas de pierre ni de parpaing.
Vous avez peur que ça dérape quand vous intervenez ? Vous avez peur de ce qui serait appelé par certains une bavure ?
Je dirais pas peur, appréhension forcément, on fait très attention. Après, on est quand même des personnels d'expérience. On sait comment intervenir, on sait quoi faire, on sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. En fait.
J'accuse ouvertement Nicolas Sarkozy d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Ce qu'ils appellent comme un euphémisme, être décomplexé. Tiens donc, décomplexé, décomplexé de quoi ? Vous savez que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Aujourd'hui, tout le monde se croit permis de dire ce qu'il a sur le cœur, quand bien même que ce serait absolument illégal. Nous sommes aujourd'hui en 2015 dans la séquence la plus périlleuse de la République française. Il y a des milliers de personnes, ou des centaines de milliers, dans les cités et ailleurs, qui n'ont plus rien à perdre. Et qui sont dans les processus d'explosion individuelle, psychologique. Ce processus d'explosion qui font que des types sortent dans la rue avec des kalachnikovs à la main et fusillent tout ce qu'il y a autour d'eux, il y a de quoi faire flipper des millions de Français qui vont, tôt ou tard, s'armer ou constituer des milices dans leur quartier pour se protéger de l'invasion. Je crains fortement que la boîte de Pandore va encore s'ouvrir davantage et que le pire est à venir.
Après avoir été assistant pédagogique dans un collège pendant 5 ans, Fariz suit aujourd'hui une formation de moniteur d'auto-école. Il a quitté Clichy-sous-Bois et vit avec sa future épouse dans une banlieue plus tranquille de la région parisienne.
C'est peut-être un peu cliché, mais est-ce que parfois tu te dis, si jamais ils me voient quelque part, j'espère qu'ils sont fiers de ce que je suis aujourd'hui?
Ouais, bah ouais, parce que moi je suis quelqu'un de... Je pense que je suis quelqu'un d'assez bien. Je me lance pas de fleurs, hein, mais je fume pas, je bois pas, j'essaye d'être le plus sérieux possible. J'ai consacré 5 ans de ma vie justement dans un collège pour aider des jeunes, notamment des jeunes de Clichy-sous-Bois en grande partie. Et ouais, bah j'aimerais bien que s'ils me voient, qu'ils se disent, c'est un bon Fariz.
Parce que dans nos mains ils ont placé des guns, parce que dans des tours sont entassés nos rums, parce que trop de nos frères purgent des longues peines, parce que dans la mer toujours les mêmes qui traînent.
Banlieue 2005, retour à Clichy-sous-Bois, un grand reportage de Raphaël Rennes, réalisation Swell Kedi.
Unité, car y'en a trop qui se cachent pour sniffer.
Raphaël Rennes, bonjour.
Bonjour.
La mort de Ziyad Ebouna a donné lieu à un procès et c'était il y a quelques mois seulement.
Nous, il aura fallu attendre 10 ans pour qu'un procès soit organisé. Sur le banc des prévenus, il y avait 3 policiers, 2 gardiens de la paix qui étaient sur place le 27 octobre 2005. L'un d'eux avait vu 2 silhouettes à proximité de ce transformateur électrique. Et sur la radio de la police, il avait alors déclaré « S'il rentre sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau ». Ce gardien de la paix, le collègue qui était à ses côtés et la policière stagiaire qui était à l'écoute de la radio ce jour-là étaient poursuivis tous les 3 pour non-assistance à personne en danger, pour ne pas avoir réagi en somme. Il aura donc fallu 10 ans et un procès qui s'est tenu à Rennes au printemps, loin de la région parisienne, pour que le jugement soit rendu avec finalement la relaxe des 3 prévenus et donc aucun dommage-intérêt pour les familles. La vérité judiciaire aujourd'hui, c'est donc que Ziyad Ebouna sont morts par accident et que personne n'aurait pu l'empêcher.
Et cette décision a provoqué la colère des proches des 2 adolescents, mais pas de violence.
Non, les appels au calme lancés immédiatement par les familles, mais aussi par les associations qui sont sur le terrain ont été entendus. La colère s'est exprimée, hein, mais au travers des médias, sans donner lieu à une quelconque flambée de violence. Comme le déclarait Mohamed Meshmash, le président du collectif Assez le Feu, qui avait vu le jour à Clichy-sous-Bois au lendemain de la mort des 2 adolescents, un fossé supplémentaire va se creuser entre les habitants des quartiers et la justice. Un fossé qui existait déjà en 2005 et qui n'a fait que s'aggraver depuis. Je crois qu'on l'entend dans ce reportage au travers des différents témoignages.
Et est-ce que c'était difficile de recueillir ces témoignages?
Difficile, non, mais c'est long et parfois compliqué parce que les relations avec les médias ne sont pas simples dans ces quartiers où les habitants ont un peu le sentiment que les journalistes ne viennent que lorsqu'il y a le feu. En 2005, les médias ont d'ailleurs joué un rôle important dans l'ampleur des émeutes, une sorte de course à la commune où le plus grand nombre de voitures seraient brûlées devant les caméras, devant les journalistes. Alors 10 ans plus tard, beaucoup n'ont pas envie de parler à la presse. Ils disent ne pas avoir confiance. D'autres sont plus enclins à raconter cette histoire, leur histoire. Et lorsqu'ils le font, c'est avec beaucoup de pudeur, mais aussi beaucoup de sincérité.
Banlieue 2005, retour à Clichy-sous-Bois. Votre grand reportage, Raphaël Rennes, est à retrouver, à réécouter quand vous le voulez sur RFI.fr.
Pour certains, c'était des potes, et pour d'autres, des petits de la cité. Mais seulement 1 sur 3 a survécu dans l'électricité. Ça a été une réalité dure à accepter. Le 27 octobre, Ziyad et Bouna nous ont quittés. 17 ans et 15 ans, trop jeune pour partir, trop jeune pour dire à tout le monde on se reverra en dehors de cette terre. Qu'on est tous des hommes, on passera tous tôt ou tard par la mort, mes frères.
Des hommes fuient la police par peur, jusqu'à perdre la vie. On doit se poser des questions, moi je suis juste un mec qui donne son avis. Je suis là pour, on a tous vu au moins une fois les civils déraper comme des barges dans la cour. On se comprend plus de la plupart, quand même nos ministres désignent les gosses innocents, coupables. Aujourd'hui je frémis parce que j'ai 3 enfants.
Pour vous la résilience, je prends ma prime envers sans quelques larmes.
Partageons la douleur,
la souffrance des familles qui les pleurent. Comprendre ce qu'il s'est passé, exposer la vérité.